Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien composé de découvertes musicales, de vos sorties à Poitiers et ses environs et surtout de rencontres autour de l'actualité. Aujourd'hui, on parle du baccalauréat et oui, ça a commencé cette semaine, c'est la grande épreuve qui termine le lycée et pour en parler, nous accueillons Fabien Emmanueli qui est chef de service de la division des examens et concours au rectorat de Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce baccalauréat 2025 qui a commencé en ce début de semaine par la traditionnelle épreuve de philo. Alors, comment s'est passé à l'ouverture de ce baccalauréat?
Jusqu'ici, tout va bien, j'ai envie de dire. Il n'y a pas eu de problématiques majeures, donc on croise les doigts parce que ce n'est pas encore terminé. Il y a encore des épreuves écrites aujourd'hui. Et puis après, il y aura de longues semaines d'oraux encore jusqu'aux publications. Donc, jusqu'ici, tout va bien.
Oui, c'est vrai que j'imagine que pour vous qui organisez tout ça, c'est d'être un grand stress chaque année. C'est quand même une épreuve importante, même si on en parlera, ça devient plus symbolique aujourd'hui, mais ça reste quand même très important. Et avec des milliers d'étudiants, enfin des lycéens, il faut tout organiser, quoi.
Oui, c'est un stress pour tout le monde, hein, je pense, pour les candidats, pour leurs parents et aussi pour les équipes hein, qui organisent ce baccalauréat, puisqu'évidemment, c'est très regardé et par le ministère, c'est normal, et par les journalistes et par l'opinion publique. Donc évidemment, on essaie de tout mettre en œuvre pour que tout se passe bien. Mais on n'est pas maître de tout. Le baccalauréat, c'est une grande machine. Ça mobilise... donc des équipes au rectorat, une cinquantaine de personnes évidemment, mais aussi beaucoup de centres d'épreuves, 124 centres d'épreuves cette année. Beaucoup d'enseignants aussi, près de 4000 enseignants pour procéder aux corrections, aux épreuves orales, etc. Donc c'est certain que c'est une grosse machine et que... On essaie de maîtriser le risque au maximum, mais qu'il y a toujours des impondérables.
Il reste tendu jusqu'au bout, j'imagine. Ouais. Et alors, en termes d'effectifs, vous parliez de ceux qui encadrent tout ça. Au niveau des lycéens, comment sont les effectifs cette année? Est-ce que c'est en baisse par rapport aux autres années? Dites-nous un petit peu.
Alors, globalement, c'est stable. Hein. C'est-à-dire que cette année, on est sur 28 821 candidats qui ont passé une épreuve du bac. C'est-à-dire soit les épreuves terminales, soit les épreuves anticipées de français. Si on regarde que les épreuves terminales, donc les élèves de terminale, ça représente 16 300 candidats. C'est une légère baisse de 200 candidats par rapport à l'année précédente. Donc c'est vraiment l'épaisseur du trait. Pour ce qui est des candidats aux épreuves anticipées de français, là il y a une légère hausse de 72 candidats. Donc là encore, on est sur l'épaisseur du trait puisqu'il y a 12 500 candidats qui ont passé les épreuves anticipées dans l'académie.
Donc quand on parle de ces épreuves, on a tendance à focaliser sur le bac général, mais en réalité, il y a aussi le bac professionnel où les épreuves ne sont pas aux mêmes dates en réalité.
Oui, tout à fait. Oui, là quand je parle du bac, je parle des bacs en fait. C'est-à-dire le bac général, les bacs technologiques et les bacs professionnels effectivement. Et oui, cette année, la grande nouveauté concerne le bac pro en fait, puisque cette année, pour la première fois, on a mis en place ce qu'on appelle le parcours différencié, c'est-à-dire qu'on a avancé le calendrier des épreuves nationales pour les positionner sur le mois de mai, de façon à dégager une plage de 6 semaines en fin d'année pour les élèves et leur permettre soit de réaliser des stages s'ils souhaitent s'insérer directement dans la vie active après leur bac, soit préparer leur entrée dans l'enseignement supérieur et notamment en BTS puisque c'est un peu la voie royale pour les parcours d'études de bachelier professionnel, c'est le BTS.
Vous avez déjà un peu des premiers retours de cette modification du bac pro? C'est peut-être un peu tôt.
Premier retour...
De cette modification du calendrier
C'est un peu tôt, effectivement, peu tôt, mais oui. Les seuls retours qu'on ait, c'est que finalement, les élèves se sont dirigés autant vers une insertion professionnelle directe après le bac que vers un parcours, qu'une préparation à l'enseignement supérieur. On est à peu près sur du 50-50. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête exactement, mais l'ordre de grandeur, c'est celui-là.
Et alors, pour le bac général et technologique, est-ce qu'il y a eu des petites modifications cette année?
Oui, alors il y a effectivement, il y a quelques nouveautés. Bon, c'est La principale nouveauté, c'est celle dont je viens de parler. Et puis, on a eu quelques spécialités qui ont évolué, notamment la spécialité accompagnement, soins et services à la personne, qui a été rénovée, puisque précédemment, on avait deux options qui n'en font plus qu'une désormais. On a eu le bac pro esthétique, cosmétique et parfumerie qui a aussi connu une rénovation de son référentiel. On a quand même une nouvelle spécialité de bac professionnel qui est apparue dans l'académie. C'est la spécialité donc modélisation et prototypage 3D qu'on peut retrouver au lycée Bernard Palissy de Saintes. Et puis la dernière nouveauté, c'est que la spécialité sciences de l'ingénieur comprend désormais une épreuve pratique. Voilà, une épreuve supplémentaire pratique.
Et alors, donc depuis quelques années maintenant, il y a le contrôle continu. C'est pour ça que je disais que ces grandes épreuves de fin d'année font toujours peur, mais peut-être qu'elles ont moins d'importance qu'avant. Le contrôle continu, quelle part il a aujourd'hui dans l'obtention du bac ?
Il représente 40% du baccalauréat. Donc, effectivement, c'est quelque chose de significatif. Bon, pour autant, il y a quand même une volonté de laisser la part belle aux épreuves terminales. C'est ce qui se produit aussi au DNB à compter de la prochaine rentrée, puisqu'on repasse sur du 60-40 avec 40% de contrôle continu et 60% pour les épreuves terminales.
Et alors là, il va rester le grand oral. Ça aussi, c'est une épreuve en soi que les anciennes générations ne connaissent pas. Comment on prépare à ce type d'oral ? Si vous aviez un petit conseil, parce qu'il reste ça à réviser, si on peut réviser.
Alors franchement, ce serait un conseil d'ordre vraiment très général, ce serait de gérer son stress, je pense, puisque a priori les questions ont été préparées en amont avec l'aide des enseignants, donc les élèves sont préparés et le principal enjeu, c'est la restitution le jour J de ce qu'on a fait pendant l'année. Donc je pense que ce qu'il faut soigner, c'est la gestion de son stress, la présentation auprès du jury, la présentation de sa personne déjà, et puis la présentation de la question choisie par le jury.
Alors, il y a eu au niveau national des questions de triche. Bon, il y en a chaque année, hein, mais les nouvelles technologies rendent cette triche encore plus simple. Comment on lutte dans ces épreuves-là pour garantir l'équité en fait, entre les lycéens?
Alors, on fait beaucoup de sensibilisation auprès des centres d'épreuves. Évidemment.
C'était une montre, en l'occurrence, hein, qui a été mise...
Oui. Alors, la consigne, c'est que tout objet connecté ne doit pas pénétrer dans les salles d'épreuves. Ça, c'est la consigne. Alors après, évidemment, les fraudeurs, la montre connectée, la mettent pas forcément au poignet. Donc, c'est pas évident. Hein. On va pas non plus procéder à des fouilles. Donc, on essaie en amont d'éviter l'entrée de tout objet connecté dans les salles. Et puis ensuite, on essaie d'être très vigilant. Enfin, les surveillants de salles doivent se montrer très vigilants surtout très vigilants à tout comportement un peu suspect. Voilà, c'est ce qu'on peut faire de mieux, je pense, à ce stade. Après, le risque zéro n'existe pas, hein, c'est clair.
Et est-ce qu'on peut imaginer que, justement, les épreuves du baccalauréat avec... maintenant l'intelligence artificielle et toutes les aides technologiques qu'on a, est-ce que les épreuves pourraient évoluer encore dans leur forme ?
C'est probable. Je crois que c'est ce qui se passe dans l'enseignement supérieur. Donc, ça pourrait tout à fait aussi toucher l'enseignement secondaire et on pourrait tout à fait imaginer de nouvelles épreuves qui prennent en compte l'utilisation de ces intelligences artificielles. On n'en est pas là encore, mais c'est sûr que la réflexion est lancée. Au niveau du ministère probablement, mais en tout cas tout le monde à l'Éducation nationale réfléchit aux intelligences artificielles et à la manière dont ils peuvent en tirer bénéfice la manière dont elles vont faire évoluer nos pratiques. Voilà.
Et une petite dernière question sur les résultats. Quels étaient-ils l'année dernière et qu'est-ce qu'on attend cette année ? C'est toujours des très bons résultats, le baccalauréat.
Oui, le baccalauréat. Alors effectivement, hein, l'année dernière, on avait 92,3% de réussite au bac technologique, 97,4% de réussite au bac général et 86% de réussite au bac professionnel. Donc effectivement, ce sont des bons résultats qui sont dans l'académie au-dessus de la moyenne nationale. Donc on en est plutôt satisfait. Ce sont des résultats qui sont en hausse depuis 2022, hein, en hausse régulière sur les trois bacs. Donc on ne peut que se souhaiter de faire encore mieux cette année et d'avoir des résultats à nouveau en hausse pour la session 2025. L'avenir le dira.
C'est ce qu'on souhaite à tous les candidats au baccalauréat qui sont en pleine épreuve. Merci beaucoup Fabien Menuelli d'être venu dans Séquence Midi. Vous êtes chef de service de la division des examens et concours au rectorat. Et ben oui, bonne chance aux lycéens. Merci bien.
Merci à vous.
On continue en musique avec le talentueux producteur de dub Claudien. Il dévoile Carousel, son titre avec L'Intruse.
De professionnel, je dirais.
Bizarre.
Ça, c'est bizarre.
Les étoiles en plus.
C'est C'était les rendez-vous de l'innovation à la Maison des étudiants cette semaine et Thomas s'est rendu sur place pour nous.
Le mardi 17 juin, la Maison des étudiants de Poitiers accueillait le rendez-vous de l'innovation. Une journée dédiée aux startups du Poitou, accompagnée par Néologie. Muriel Joly, directrice du pôle développement et événements de Néologie, nous en parle plus en détail.
Néologie Technopole, nous sommes incubateurs de start-up, de projets innovants. Et nous avons décidé il y a 4 ans d'avoir vraiment notre événement pour mettre en présence les start-up que nous accompagnons avec l'ensemble de notre écosystème. Puisqu'il y a une de nos missions qui est bien sûr de les accompagner, mais aussi d'animer tout ce réseau autour d'eux et de les faire connaître.
Ils sont une douzaine d'entreprises ayant récemment rejoint Néologie sur le forum. Parmi eux, Pictamap, représenté par Sigrid.
Alors, l'entreprise, c'est une start-up innovante qui cartographie plusieurs thématiques, les îlots de chaleur, la végétation, donc les haies, d'autant plus avec toutes les problématiques de ruissellement de l'eau, érosion des sols, etc. Et aussi, on travaille sur, sur la biodiversité pour prendre toutes ces thématiques de manière systémique et pas en silo. L'objectif, c'est de travailler avec les collectivités, notamment les EPCI et les communes, pour essayer d'améliorer la santé des territoires de manière globale.
Pour elle, comme pour beaucoup dans cet événement, l'objectif principal, c'est les rencontres.
En fait, le but d'être ici pour nous, c'est de faire du réseau, de développer notre réseau, en effet, pour avoir plus de clients et puis même se faire identifier. Finalement, c'est vraiment juste de la communication et du réseautage.
Mais faire de la communication et du réseau, ce n'est pas que avec de potentiels clients. C'est aussi parfois pour trouver des partenaires. Le campus Numeria est un futur campus d'accueil de scolaires au Futuroscope. Il a pour objectif de faire comprendre le numérique et ses innovations. Benjamin Gréau était présent sur place grâce à son partenariat avec Néologie. Il vous explique le principe.
L'idée de ce partenariat, c'est de, à travers Néologie, faire le lien entre notre projet, qui est à destination des publics scolaires, mais qui propose des innovations technologiques, avec les entreprises qui peuvent proposer des innovations technologiques. Donc faire des prestations, par exemple, de réalité virtuelle, des prestations de robotique, des prestations diverses numériques et innovantes à destination de nos publics.
Malgré que ce forum n'ait lieu qu'une fois par an, Néologie accompagne les startups tout au long de l'année, comme nous l'explique Thomas Kouibo de Développe ton Club.
Alors l'accompagnement Néologie, en fait, c'est 11 thématiques, des thématiques pour accompagner des startups. On passe de la comptabilité au marketing, à l'aspect juridique. L'idée, c'est d'avoir un point de vue global, en fait, de son projet. Et ensuite, l'accompagnement Néologie va vraiment rentrer sur les axes, on va dire, plus cruciaux pour développer justement son petit projet.
Le prochain rendez-vous de l'innovation aura lieu en juin 2026, mais pas à la Maison des étudiants. Néologie s'applique à déplacer son forum dans différents lieux de formation pour rencontrer d'autres jeunes publics.
Merci Thomas pour ces rencontres. Lundi, dans Séquence Midi, on parlera de la création de l'entrepôt de données de santé, ce qui vient d'être créé au CHU de Poitiers. Et tout de suite, c'est l'heure de vos idées sorties. On commence avec les Beaux-Arts, École d'art plastique de Grand Poitiers, qui propose la traditionnelle exposition de fin d'année. Ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'au 4 juillet. C'est à l'ancien collège Jules Verne à Buxerolles, une immersion dans l'univers artistique des 452 élèves. Et oui, 177 enfants et 275 adultes qui ont suivi cette année les cours dispensés par 10 enseignants, tous issus du monde artistique professionnel, peinture, dessin, sculpture, gravure, technique mixte, photographie. Toutes les disciplines sont explorées par des élèves au profil varié, du débutant passionné à l'amateur éclairé. Donc il y a plusieurs temps forts à ne pas manquer. Aujourd'hui, donc à 17h30, le vernissage de l'exposition. Mercredi prochain, la rencontre avec les professeurs et l'échange autour des pratiques pédagogiques et des projets de l'année. Et puis samedi 28 juin, il y aura une journée spéciale avec la présence d'élèves et d'enseignants pour des temps de médiation et d'échange. L'exposition est ouverte à tous et toutes, que vous soyez amateur d'art, parents, futurs élèves ou simples curieux. Et c'est du lundi au vendredi de 10h à midi, de 14h à 20h. L'entrée est libre. Rencontre avec la revue La Déferlante, c'est à 18h, lancée en 2021. La Déferlante a voulu s'imposer comme la revue de référence sur les enjeux féministes et les questions LGBTQIA+. Depuis avril 2023, La Déferlante se décline aussi en maison d'édition. Il y a une discussion avec Emmanuelle Joss, co-rédactrice en chef de la revue, à La Belle Aventure, donc à partir de 18h, rue des Grandes Écoles. Le colloque des 40 ans du laboratoire Migrinter, laboratoire sur les migrations de l'université de Poitiers, est en cours actuellement et se clôture ce soir par une émission en direct, puisque laboratoire Migrinter, c'est aussi une émission, soit dite en migrant, sur Radio Pulsar. C'est au Confort Moderne et ce sera suivi d'un concert de Half Cab. C'est un jeune groupe qui a gagné le tremplin du Crous cette année. Et puis le groupe que vous connaissez sans doute, c'est HK, à partir de 20h. Donc rendez-vous pour cet anniversaire de Migrinter au Confort Moderne. Projection débat de la guerre froide à la guerre verte, c'est à 20h30 au cinéma Les 400 coups de Châtellerault, en présence de Julien Leguet de Bassine Non Merci et des parents de Serge, vous savez, celui qui avait été blessé lors des manifestations de Sainte-Soline. La frontière, voilà un petit peu le pitch du documentaire qui vient de sortir. La frontière entre le Paraguay et le Brésil est devenue un désert vert. C'est le lieu d'origine de la République du Soja, le berceau de l'agro-industrie mondiale. L'horizon est une ligne sans fin qui unit le passé et le présent. Un passé dicté par la violence politique de l'opération Condor et un présent marqué par les assassinats des défenseurs de la Terre. Sur Pulsar à 18h, rendez-vous avec le Labo des Savoirs, votre émission de vulgarisation scientifique. À 19h, c'est Change Doers où on parle innovation, notamment innovation sociale. À 20h, c'est Metal Fury. Merci Papa Cortex pour la réalisation technique de cette émission. On se quitte avec Bleu Soleil en collaboration avec Louisa pour un EP qui vient de sortir, un EP du même nom, donc Bleu Soleil. Bon après-midi en musique.
Frôler les nuages, défier mon histoire. Laisse-moi m'égarer là où plus rien n'est égal. Même dans le noir, je veux sentir la terre, la douceur minérale. Laisse-moi partir même sans bagage, caresser le vent. Je veux embrasser le monde, prendre dans mes mains. La route est longue et les rêves sont grands. Je marchais sans fin, je veux vendre l'horizon. J'entends les montagnes, les étoiles m'attendent. Comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Que n'a-t-il.
Y a-t-il des limites à la liberté d'expression?
Point d'interrogation.
Avant, c'était une mercerie. Là. C'était bien parce qu'on trouvait de tout. Mais ils abîment tout, ils crassent tout, ils changent tout. On ne sait plus où c'est qu'on en est. Quoi. Dès que c'est transformé, on oublie ce qui était avant.
Oui, c'est vrai.
C'est ça. Enfin, moi, ça me fait ça. Hein.
Oui, oui.
Voilà.
Pulsar.